C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
Oh oui, on va commencer ça avec Marie-Geneviève Robitaille. Elle dit, hey, qu'est-ce que ça dit un DJ qui rentre dans une fromagerie?
Il dit quoi?
Faites du bruit!
Ah, je la hais et je l'adore au même moment. Une blague de la part de Mélanie Champigny. C'est une blague de blonde. En passant, je vous avertis, c'est vraiment un spécial blonde ce matin. Vous l'avez gâté sur la messagerie texte au 96.9. Donc, c'est deux blondes qui discutent ensemble. La première dit, hey, as-tu vu Nathalie? Ça fait un petit bout qu'on n'en a pas entendu parler. Puis elle dit, ah, tu savais pas, elle est morte.
Oh.
Elle dit, ah, tant mieux. Je pensais qu'elle était fâchée contre moi depuis tout ce temps-là.
Oui. Un petit classique avec Amélie, hein. Qu'est-ce qui est le plus dur à manger sur un légume?
Je sais pas.
La chaise roulante.
Non. Il y a Germain qui nous a envoyé une coquine à part de ça. Lui, salut la gang, c'est Germain. Savez-vous la différence entre un homme en équilibre sur un fil de fer à 300 pieds dans les airs et un homme qui se fait faire une gâterie par une femme de 80 ans?
Je sais pas.
Il y en a pas, les deux se disent, faut pas que je regarde en bas, faut pas que je regarde.
Moi, c'est une joke qui nous provient de Kevin Albert sur la messagerie texte au 96.9. Fait que dans un avion, les pilotes, les deux, sont victimes d'un malaise.
Mon
ça
Dieu
va
Seigneur.
Vraiment pas bien. Et là, les hôtesses de l'air appellent la tour de contrôle. M'aider, m'aider. Je suis seule. Faut que je fasse atterrir l'avion.
Wow.
Dit, OK, bien reçu. On va tout faire pour pouvoir vous aider. Alors, on a besoin d'avoir votre hauteur et votre position. Alors, la blonde répond, 1m68, je suis assis aux commandes. Il dit, laissez-moi deviner, est-ce que vous êtes blonde? La fille dit, oui. Il en s'en suit un gros silence. La tour de contrôle répond, bon, voici la procédure à suivre pour votre cas. Répétez après moi, notre père qui êtes aux cieux.
Gabriel de Candiac, qu'est-ce que font deux dinosaures qui n'arrivent pas à se décider?
Je sais pas.
Un tirage aux arts.
C'est cute!
T'es comique, de retour dans un instant.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques, sur demande.
BLP, c'est sa chronique. BLP, dans Debout les comiques.
À 7h15, on accueille Jean Leloup, mesdames et messieurs, lui-même.
Ah ouais?
Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, c'est... ouais, c'est ça. Ouais, je reviens d'une longue fin de semaine. Là. Moi, j'ai atterri hier. Ouais, c'est ça. Ben, je partais de loin, là, tu sais. J'étais dans ma tête, là. Mais je suis revenu, là. Je suis tout là. Je suis revenu. C'est le voyage dans ma tête, j'aime ça, moi, parce que c'est, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Les gens, ils sont loin, tu sais. C'est une longue fin de semaine, hein?
Oui.
C'est 3 jours, hein? À cause, c'est la fête là, du travail, là, puis ça faisait longtemps, moi, j'avais pas travaillé, fait que j'avais rien à fêter, tu vois, tu sais, c'est ça qui est bizarre, hein? C'est la fête du travail, puis les gens, ils prennent congé, tu sais, c'est un peu ridicule, tout ça, là. Ouais. Mais personne se plaint, hein? Tout le monde adhère. Il y a juste moi, là. C'est moi qui adhère pas à ça. C'est l'histoire de ma vie, hein? Ouais, c'est ma chanson, ça. C'est moi qui ai chanté ça. Ouais. Ouais, c'est ça pour la longue fin de semaine. J'ai des amis, ils voulaient faire une activité, là, tu sais. Des activités, moi, j'en fais pas souvent, tu sais. Mais là, ça impliquait d'être dans le public. Puis moi, le public, je les aime, là, tu sais. Mais quand ils sont loin, là, tu sais. Ouais. C'est une drôle d'activité. J'ai pas encore compris, là, tu sais. Je suis revenu, je ne savais pas trop, là, tu sais. C'est quoi on a fait, là? On était un petit groupe, là. C'est ça. On était un petit groupe, là. Là, tu rentres quelque part, puis là, une fois rentré, tu peux plus reculer, là. Tu comprends? T'es pris, là. T'es pris à l'intérieur, là.
Il faut que tu sortes de la pièce?
C'est ça, là, tu sais. Ouais. T'as déjà...
un escape room?
Non, c'est pas comme ça qu'il appelait ça. T'es enfermé, puis là, l'idée, c'est de trouver comment en sortir.
Ouais.
Il y a toutes sortes de meubles. Puis là, mes amis, ils se sont mis à toucher, là. Tu sais, tout ce qu'il y avait, ils touchaient, puis c'est pas à eux, là. C'est pas, puis on sait pas c'était qui. En réalité, c'est sa personne, tu sais, c'est là, puis là, tout le monde... J'ai mon amie Karine, là, tu sais, elle a pris une lampe, là. Là, elle s'est mise à la tourner là, dans tous les sens, là. Puis là, elle a montré à son copain, hein. Elle était là, François, la lampe! Lui, il était là, il osait pas rien dire, tu sais. Il aimait pas la lampe, là, tu sais. C'est qu'il disait rien, tu comprends? Et là, elle était là, puis moi, je comprenais rien, là, tu sais. On était pris, là. Là, dans le groupe, il s'est formé. Non, mais c'est vrai, là. C'est un vrai jeu, là. Il s'est formé des petits groupes, là. C'était des sous-groupes. Tout le monde cherchait quelque chose. Mais on savait pas trop c'était quoi. Là, il venait me voir, Jean, as-tu trouvé quelque chose? Mais j'ai rien trouvé, moi, je veux juste m'en aller, là, tu sais. Partir d'ici, là, tu sais, là. Là, après une heure, on a finalement trouvé comment sortir, là. Fallait suivre les chemins. Mais moi, j'avais faim. Heureusement, il y avait de la bouffe, hein. Il y a de la bouffe quand tu sors.
Ouais.
Ouais, non, c'est bon, hein. C'est vraiment bon. Il y a plein de bouffe. Tu peux boire aussi, là. C'est particulier, là.
Ouais.
Ouais, c'est gros, hein. C'est une grosse place, là. C'est bleu avec du jaune, là. Il y a des lettres. C'est comment ça s'appelle? C'est Ikea! C'est ça, Ikea! C'est lettres! Ikea! C'est ça, je cherchais.
Le podcast Debout les comiques.
Sarah, ça fait 3 semaines que t'es dans Debout les comiques, puis toi, là, t'arrêtes pas de dire que tu veux jouer. Regarde, on va faire ça.
C'est le temps de jouer.
On va jouer.
Jouons ensemble. Vrai? Allez, jouons.
Et attention, parce qu'on va tous jouer autour de la table. Ce matin, on joue à un jeu qui ressemble à Roche, Papier, Ciseaux. Je vous propose de jouer à Rock, Poney, Ciseaux.
C'est comme un moment de nostalgie pour les auditeurs des 10 dernières années de Debout les comiques.
Exactement. Je vous donne un nom. Vous devez me dire s'il s'agit d'un band rock, d'un cheval ou d'un film porno, d'où le nom Rock, Poney, Ciseaux. Sarah.
Gros tonton partenaire.
Non, c'est moi. Laisse-moi dire le titre, je vais le dire. T'as pas de titre à inventer. Est-ce que... Sarah.
Ah, c'est craqué tout ça.
Qu'est-ce que G-Spot? Est-ce que c'est un nom de band? Un nom de cheval de course ou un nom de groupe? Un nom de film porno? G-Spot.
Écoute, ça, c'est un nom de cheval.
Un nom de cheval?
Ben non, c'est bien là, c'est pas.
C'est-tu ta réponse?
Ben oui, c'est ma réponse.
OK, ben c'est la bonne réponse.
Ah, ben là!
C'est la bonne réponse.
Bravo!
Bravo, Sarah, un point.
Parce que je pourrais dire, c'est un endroit. Hein?
On continue avec Étienne.
Ouais, je suis là.
Étienne, A Few Hard Men.
Oh, mon Dieu!
Ben non, c'est porno, là.
Un film porno, tu penses?
Ouais.
C'est une bonne réponse.
Ah oui, j'aime.
Valérie.
Oui.
Earth Pig. Où est-ce qu'on va? Earth Pig and Fire.
Earth Pig and Fire?
Ouais.
J'espère que c'est un band de rock qui fait des covers de Earth, Wind and Fire. Wow!
Sarah!
Et moi, je suis brûlée. Je suis en train de jammer de la mâchoire.
Je pense au pickle, là.
Est-ce que c'est un band, un cheval de course ou un film porno? Fabulous Pimp. Fabulous Pimp, donne une réponse.
Ben, moi, j'y vais encore avec le cheval.
Encore avec le cheval? C'est une mauvaise réponse.
Bonne réplique, Étienne. Ah non, c'est un film porno.
Non, moi, je dis que c'est un band.
C'est un band rock, Étienne. Bonne réponse. Sarah, encore. Qu'est-ce que Miniscule? Miniscule, je vais le dire comme ça. Miniscule.
C'est un band. Beaucoup d'affaires qui me viennent en tête.
Ben oui.
Moi, je m'en vais chez nous.
Droit de réplique, Valérie.
Je veux pas tout dire ça, mais moi, je pense que c'est un film porno. Ah oui, hein, tu y vas là.
C'est un film porno. Non, c'est une mauvaise réponse.
Ben voyons.
Non, une dernière. Encore Sarah, je te lance en premier.
C'est un cheval.
Moi, c'est un cheval.
C'est la fille.
Bread and butter.
Butter.
Bread.
Ben écoute, il me semble que j'ai entendu ça.
Fait que c'est un film porno.
Bread and butter, ben. Non, c'est un band.
C'est un band?
Ouais, c'est un band.
Ah! T'es trop musicien, doit de réplique, Étienne.
Bread and butter, ben, je vais y aller avec. Hey, avec le cheval.
Hein?
Oui! Ah! C'est une bonne réponse!
Le pain et la beurre!
Étienne Marcoux qui a gagné 3-1 pour Sarah et 1 pour Valérie. C'était ça, le jeu.
T'es comique? De retour dans un instant.
Debout, les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques? Sur demande.
Debout, 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 les comiques. One love,
7h. Doc Michael Bensoussan.
Non, jamais entendu parler.
7h01, on est dans une heure sans pause. On entame ça avec le doc Michael Bensoussan qui est avec nous ce matin. Il est venu faire un mea culpa. Il trouve que les médecins dans les médias expliquent mal au public les enjeux de santé. Salut, Michael.
Exactement. Bon matin.
Bon matin.
Morning.
Alors, Michael, qu'est-ce que vous nous avez expliqué? Tout croche, faut que tu nous aies ça.
Ben, en fait, il y a deux choses qui m'ont inspiré cette chronique. D'abord, il y a un bel article qui est sorti il y a 3 jours ou 4 jours dans la presse qui parlait en fait des impacts sur la santé de manger de la viande, de manger du bacon, de la charcuterie, trop gras, de l'obésité, etc. Et de l'impact que ça pouvait avoir sur les cancers. Et en fait, c'est quelque chose que quand on fait une analyse de la littérature, on le sait depuis longtemps,
ouais.
Mais pas forcément sur les cancers. Et sur quels cancers? Là, en l'occurrence, c'est le cancer du foie, des reins ou de l'endomètre, ça a été pas bien expliqué. Et ça m'a évoqué qu'effectivement, il y a plusieurs communications que je trouve personnellement qui sont pas bien faites. Exemple, on en avait déjà parlé juste avant les vacances, c'est cette histoire de l'influence de l'alcool sur les cancers et que Santé Canada recommande à peu près ou quasiment aux Canadiens de plus boire d'alcool et que tout le monde panique et capote avec ça, que j'entends des médecins, des biologistes, tout le monde vient dire tout et n'importe quoi. Les gens ne savent plus s'y retrouver et autour de cette histoire d'alcool et de cancérologie, je trouve que c'est une cacophonie. Et que sort-il de la cacophonie? Eh bien, à rien.
Parce en fait, il sort pas rien. Il sort une fermeture.
C'est
ça. On voudra pas l'entendre, on va faire comme on faisait.
Exactement. Et évidemment, tout ça m'a fait une réminiscence de ce qui a été vraiment un virage absolu dans la communication médicale dans les médias, qui a été cette période de la COVID et de la pandémie, où en fait, on écoutait beaucoup les paroles des médecins, des scientifiques qui venaient parler, etc., etc. Et effectivement, là encore, il y a eu très souvent, à bien des égards et à bien des virages très importants de cette pandémie, des moments complètement cacophoniques où les gens n'entendaient plus rien. Et moi aussi, je fais mon mea culpa parce que moi, il y a un moment auquel j'ai repensé souvent, c'est le moment du début de la pandémie où j'ai pas osé dire aux auditeurs la taille de l'ouragan, de la catastrophe sanitaire qui s'en venait parce que je ne voulais pas être le messager de mauvais augure.
Ouais.
Je ne voulais pas être anxiogène. Je ne voulais pas provoquer de la panique ou être responsable de ça. Et en fait, ben, j'aurais dû. Voilà.
Mais donc, est-ce que c'est recommandé de se torcher?
c'est recommandé, je rappelle, l'hygiène des mains est très importante. Et avant toute chose.
Et le faire d'un coup. Là.
Voilà. Ouais, non, mais donc, c'est vrai que c'est quand même important de bien expliquer aux gens. Et en fait, faire peur aux gens, ça peut être quand même intéressant dans le sens où, reprenons l'exemple de la cancérologie, ce qui compte avant toute chose, c'est la prévention.
Ouais.
Le meilleur traitement de la plupart des cancers, c'est la prévention, c'est-à-dire que les gens aient des actions sur leur mode de vie pour ne pas que même le début du commencement du cancer arrive. Et ça, c'est vraiment ce qui donne les meilleurs chiffres. C'est pas tant les progrès de la chirurgie, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, que sais-je. C'est la prévention. Donc en fait, quand on explique clairement aux gens, même si c'est épeurant, qu'est-ce qui est un beau message de prévention, parfois, ça peut valoir le coup de faire peur. D'autres choses que je voudrais dire aux auditeurs, nous avons comme mandat cette année, hein, au cas où ça n'avait pas été verbalisé, d'emmener les auditeurs vers une analyse critique et intelligente. Ça fait partie des mandats de ma chronique santé. Donc ça, c'est quand même très important qu'on puisse donner aux gens les clés pour savoir que dit la littérature médicale et qu'est-ce que ça veut dire quand on parle d'un sujet.
C'est quoi les risques d'une communication médicale qui est pas claire, Michael?
Alors, je veux dire, le risque, il est double. D'abord, encore une fois, il y a sur la prévention, je vais donner l'exemple du tabac. C'est vrai qu'on dit, il faut arrêter de fumer, c'est pas bien, ça donne le cancer, ça donne les AVC, ça donne l'infarctus. Je vais vous donner d'autres chiffres. En fait, le risque de cancer quand on fume, il est multiplié par 20. Et le risque de faire un ACV, il est multiplié par 40. Ces chiffres sont comparables à quelque chose qui est absolument palpable dans ce qu'est la littérature scientifique. C'est qu'en fait, ça donne le même risque de cancer que si on habitait à côté d'une usine de produits chimiques toxiques, d'accord, qui avait eu un accident industriel avec une fuite. Donc en fait, quand on dit aux gens, veux-tu habiter à côté de l'usine Texaplouk qui fuit activement dans ton gazon, qui va répondre oui?
Ça
c'est quand même des choses qui sont importantes. Et l'autre chose qu'on a constaté, c'est le conspirationnisme. C'est-à-dire que quand moi, le scientifique, je ne viens pas bien expliquer les chiffres, en fait, il va y avoir des gens qui vont prendre ces chiffres, les tordre et dire n'importe quoi. Je reprends cette exemple de la pandémie, il y a beaucoup de gens qui disaient « Oui, mais on veut vous vacciner, on veut vous donner des masques, mais en fait, le risque de mourir quand on attrape la COVID, il est de 0,2%. » C'est vrai, C'est absolument vrai, sauf qu'à posteriori, au Québec, il y a plus que 1 million de gens qui ont attrapé la COVID, et ce 0,2%, ça fait donc qu'il y a eu 20 000 morts. Et que donc, est-ce qu'un scientifique peut vraiment venir ici et dire « j'accepte que la population de cette île ou de Thetford Mines » parce que c'est ça, soit rayé du Québec. Non. Donc, de temps en temps, il faut quand même expliquer aux gens très précisément c'est quoi les risques des comportements. Et encore une fois, à titre individuel, lorsqu'on communique là-dessus, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est le risque collectif. Et on ne viendra toujours et toujours parler que de ça.
Ouais. C'est un très bon point que tu soulèves. Puis d'ailleurs, tu sais, la COVID, c'était l'idée aussi que ça avait des effets à long terme qu'on ne connaissait pas. Ouais. Ce qui fait un très bon lien avec la question de Sébastien, parce que vous nous avez posé des questions sur la messagerie texte au 96.9. Lui dit qu'il t'avait posé une question ici même sur nos ondes l'année dernière.
Je me rappelle
parce
très
que
bien.
Depuis qu'il avait eu la COVID, son sommeil, ça allait vraiment pas bien.
Oui.
Donc, tu lui avais suggéré de prendre la mélatonine pour réapprendre, si tu veux, à son corps à dormir.
Oui.
Il dit, ça a fonctionné un peu. J'en ai pris pour 3 mois. Mais il dit, par contre, après 3 mois, sur la boîte, ça dit d'arrêter d'en prendre.
Oui.
Fait que dit, là, mon sommeil, ça recommence à être dégueulasse. Il dit, est-ce que je peux en reprendre ou est-ce que c'est dangereux pour
Alors,
le corps?
Alors, tu peux en reprendre. Il n'y a pas d'habituation à la mélatonine. Je rappelle que la mélatonine est l'hormone inductrice du sommeil et régulatrice des phases, de l'alternance des différentes phases du sommeil. Donc, tu peux continuer à en reprendre. C'était très intéressant de parler de Covid long, puisque je rappelle, puisqu'il va de nouveau y avoir une augmentation des cas de Covid, que veut pas, même si c'est qu'un rhume, on veut pas l'attraper parce qu'il y a un risque de 8% de faire de la Covid longue. Mmh. Sébastien est vraiment, l'auditeur qui pose la question, est vraiment dans les statistiques, puisque les troubles du sommeil sont le séquel le plus courant de la Covid longue. Mmh. Mais il y a un message d'espoir qui commence à arriver dans la littérature, et là je m'adresse à tous les milliers d'auditeurs qui ont des symptômes de Covid longue. Mmh. C'est que, a priori, dans 90% des cas, au bout de 2 ans, ça rentre dans l'ordre.
Okay.
Et ça, on le savait pas jusqu'à présent.
Faut que l'attention.
Ça a l'air que ça dure, mais ça rentre dans l'ordre.
Toujours sur la messagerie, Alexandre demande, est-ce que c'est vrai qu'après avoir bu de l'alcool, prendre des Tylenol peut endommager le foie?
Absolument. L'alcool, c'est filtré par le foie, d'accord? Le Tylenol, c'est full filtré par le foie. L'alcool et le Tylenol, on a globalement les deux plus grands toxiques du foie. Et en fait, on peut faire des hépatites super graves, qui s'appellent les hépatites fulminantes et qui nécessitent une greffe, une transplantation du foie en urgence lorsqu'on prend 2 toxiques surajoutés et notamment lorsqu'on prend une dose de Tylenol avec un autre toxique. Donc c'est rare, mais il ne faut surtout pas prendre ce risque. Le foie a une capacité incroyable à filtrer, mais ce qu'il déteste, c'est qu'on ajoute les toxiques. Donc une brosse plus du Tylenol, c'est une extraordinaire mauvaise idée.
Tu recommandes quoi à la place?
Je recommande de slacker un peu lorsqu'on prend une brosse.
Oui.
Et
mais
je recommande, pour ne pas avoir mal à la tête et ne pas avoir besoin de Tylenol, de s'hydrater à chaque apport d'alcool, 2 apports d'eau. Merci.
Ah, il y a une question pour toi, Michael. Écoute, c'est particulier. Pouvez-vous parler de l'interaction du pamplemousse avec les médicaments? Je prends de l'œstrogène dans un traitement de fertilité.
Oui.
Est-ce que je dois arrêter de manger du pamplemousse? C'est Chloé qui nous demande ça.
Alors, c'est très intéressant.
Je connais rien de ça.
Alors, parce qu'en fait, effectivement, il y a certaines substances tout à fait naturelles, comme par exemple le jus de pamplemousse, qui peuvent tout à fait perturber le métabolisme de certains médicaments. Tous les gens qui ont, par exemple, une transplantation, on reste sur la transplantation, une transplantation d'organes. Tous ces gens-là, vous savez, ils doivent prendre des médicaments anti-rejet. Bien, par exemple, le jus de pamplemousse, quand on prend des médicaments anti-rejet, c'est pas recommandé parce que ça augmente les doses de médicaments anti-rejet dans le corps. Et donc, ça peut les faire aller dans des zones toxiques. C'est également le cas pour certains anticoagulants. Je ne peux pas répondre précisément à cette auditrice sur le traitement de hormonal et de la fertilité, mais je peux juste lui dire
ça
que la question est extrêmement pertinente et sera répondue en 10 secondes par son pharmacien qui a toutes ces interactions toxiques dans le logiciel de son ordinateur.
Est-ce qu'il y a d'autres agrumes ou d'autres affaires qu'on mange qui peuvent intervenir?
Alors, pas d'autres agrumes, mais oui, il peut y avoir certains choux, il peut y avoir la réglisse. Il y a des choses comme ça auxquelles on s'attend pas et qui sont très naturelles et qui peuvent perturber le métabolisme des médicaments.
Incroyable.
C'est toujours intéressant quand on prend un médicament de manière chronique, c'est-à-dire tous les jours, de se poser ce genre
c'est
de questions.
C'est pour ça, moi, que les fruits, je fais attention à ça. Ah, c'est
non,
c'est
ça. Jamais touché aux fruits.
Michael, est-ce que tu as un saviez-vous que pour nous en terminant?
Oui, c'est un petit saviez-vous que pour encore les auditeurs, les auditrices qui ont de la difficulté à s'arrêter de fumer ou qui viennent de s'arrêter de fumer, vous savez qu'un des obstacles, c'est la prise de poids. Je voulais juste rappeler que saviez-vous qu'une cigarette, en fait, quand on fume une cigarette va augmenter le métabolisme et va cataboliser 50 calories. Une cigarette, c'est 50 calories. C'est comme ça, il va y avoir un phénomène qui fait que l'organisme va consommer 50 calories. Donc, l'air de rien, quand on fume un paquet de cigarettes, 20 cigarettes, ça va faire 1000 calories. 1000 calories, c'est un menu trio. Et quand on va arrêter de fumer d'un coup, le métabolisme métabolisme de base de l'organisme va rester le temps que quelques semaines ou quelques mois qu'il s'adapte sur ce menu trio en plus. Donc quand on s'arrête de fumer, c'est bien normal qu'on prenne un peu de poids. C'est parce que il manque il manque un menu trio qui
et
part
fumais,
en fumée.
Et je fumais une livre d'abat par jour.
Ouais, c'est ça. Et quand on va s'arrêter, mais ce mécanisme encore une fois en 2 à 3 mois disparaît.
Merci infiniment le doc Michael Bensoussan qui était avec nous ce matin.
Le meilleur des comiques sur demande.
Étienne, là, va nous parler, pour vrai. Tu dis que des fois, la vie, ça a l'air d'un sketch, Étienne, ce matin.
Mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment spectaculaire qu'on pouvait lire dans la presse.
OK.
Et je vais vous faire un résumé assez rapide.
Vas-y.
C'est de Isabelle Haché. On parle du cas de Philippe Georgiadès. Alors, ça commence comme ça. Par le passé, il consulte 2 fois un spécialiste pour un ennui de santé. Les symptômes réapparaissent au début de l'été. Alors, il prend le téléphone, il appelle son spécialiste pour prendre rendez-vous. Ils lui disent d'appeler au guichet d'accès à la première ligne, le GAP. Ça prend l'ordonnance de son médecin de famille pour voir un spécialiste. Alors, son médecin spécialiste, lui, est parti à la retraite. Alors, il réussit à voir un autre omnipraticien.
Ouais.
Alors, il a l'ordonnance, c'est réglé. Alors, il rappelle le spécialiste pour prendre rendez-vous. On lui demande de faxer l'ordonnance. Alors, il va chez UPS pour faxer l'ordonnance. Réglé! Non, parce que 2 semaines après, il reçoit un appel d'UPS. Ils ont reçu un retour de fax qui dit que l'ordonnance devait être envoyée au CRDS, le Centre de répartition des demandes de services. Il va y aller, ça va être réglé. Il comprend pas comment remplir la demande sur Internet. Alors, il appelle au 811. Au 811, ils lui disent qu'il n'y a pas à remplir la demande, c'est à son médecin de famille de le faire, celui qui est parti à la retraite et qui est remplacé par un autre omnipraticien. Donc, ça prenait un fax, le GAP, le CRDS, 2 médecins de famille, un actif à retraité, un spécialiste et beaucoup de patience pour avoir un Christy de rendez-vous.
Ben voyons donc. Là, tu viens de nous décrire les dédales de quelqu'un qui est poigné dans le système de santé, littéralement.
Tu dis.
Puis c'est un sketch, là, c'est une comédie.
Écoute, ça n'a aucun sens. Mais ce qui est relevé dans la presse et qui est fort intéressant, c'est dans tout ça, la présence d'un fax.
Ouais. C'est fou, ça.
Mais quelle technologie est plus dépassée que le fax? Ça n'a aucun sens. Et on est encore poigné.
Je sais pas pourquoi qu'ils gardent ça. On l'avait expliqué.
C'est fascinant. Ouais, oui. Mais à vrai dire, durant la pandémie, je sais pas si vous en rappelez, on avait parlé avec certaines personnes en disant pourquoi est-ce qu'il faut qu'on faxe? On n'a plus accès à un fax. On n'est même pas dans nos foutus bureaux.
Ben non.
Tu sais, je veux dire, on a encore moins accès à un fax quand on travaille de la maison. Puis expliquer que c'est une affaire de genre de secret professionnel. C'est-à-dire que si tu l'envoies par courriel, les informations ne sont pas confidentielles. C'est plutôt compliqué. Et aussi, il y en a plein qui sont juste pas rendus là.
Ouais.
Le système n'est pas encore mis en place.
Ouais.
Imaginez-vous.
Mais un email, là, pour vrai, moi, mais j'enverrais un email sans aucun problème. Là. Tu comprends-tu? Même si mon dossier de santé, là, ça me dérangerait pas.
Ma mère, c'était pareil. Là. Elle devait aller porter un document qui était rempli par son médecin de famille. Puis, elle pouvait pas. Il fallait qu'elle faxe, mais elle avait autour d'elle aucune possibilité de faxer. Mm-hmm. Fait qu'elle voulait le scanner. Puis, on dit non, on prend pas les scans. Ben, je vais le prendre en photo, puis avec un traitement sur mon téléphone, je vais pouvoir le faire comme si c'était un fax. Je vais vous l'envoyer. Non, malheureusement, il a fallu qu'elle parte de la rive sud, qu'elle traverse sur la rive nord, aller voir son médecin de famille pour lui porter le petit document, retourner chez elle, attendre qu'il remplisse. OK, c'est beau, venez le chercher.
C'est fou.
Mais retournez le chercher.
Mais ce que je comprends pas, c'est que j'ai l'impression que souvent, c'est qu'ils veulent avoir un papier officiel. J'aime vraiment entre guillemets, là.
Ouais.
Un papier officiel. Ceci dit, moi, là, je signe des contrats pour mon travail, là. Je reçois un
Adobe,
truc.
Là. C'est
ou DocuSign.
Ouais.
C'est même pas ma signature. Je fais juste mettre mon doigt. Et où, là? Il y a rien d'officiel là-dedans. On est rendu ailleurs, là. Tu vas confirmer.
Mais c'est officiel, en fait.
Ben, c'est officiel, mais je vais confirmer mon identité d'une autre façon que à la main.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, si je signais à la main Chantal Lépine de chez Déferlante, là, la compagnie de production, elle sait pas comment je signe. J'ai moi-même changé de signature 3 fois dans les 3 dernières années. Avant, je signais Étienne Marcoux. Maintenant, c'est Étienne Marc Bleu. Puis aujourd'hui, c'est vraiment Étienne Bleu. Fait que je botche de plus en plus. Même ça va juste être Mais c'est où l'officialité de la chose? Je comprends pas.
Ouais.
Moi, j'ai renouvelé mon hypothèque avec un notaire et tout s'est fait en ligne.
Ben oui.
Même la signature officielle des documents.
Ben oui.
Tout s'est fait en ligne.
Ton plus gros engagement financier de ta vie, t'as fait ça en ligne.
Exactement.
Mais quand vient le temps d'avoir une prescription, c'est pas vrai parce que moi, ma doc, elle se connecte de plus en plus, là.
Mais t'es chanceux parce qu'il y en a plein qui ne le font pas. Et même encore, jusqu'à tout récemment, je voulais avoir un papier pour aller voir un allergologue pour ma fille. Puis au téléphone, lorsque j'expliquais à la dame, je suis de chanceuse d'avoir eu la ligne, lorsque je lui expliquais que juste qu'elle me fasse le papier puis je vais passer le chercher.
Ah ouais.
Ça marchait pas. Elle voulait pas me comprendre. Puis quand je suis arrivée, le docteur a dit, ben là, on aurait pu se parler au téléphone. J'aurais ah ouais. juste envoyé le papier.
Mais vous avez pas ça, vous autres? Moi, ma doc, hier, je me suis inscrit. Hier, on a un portail, les patients de Julie Archambault, là. Puis dans le portail, mettons, ben, moi, je peux y envoyer un message. Elle, elle peut, mettons qu'elle a une requête pour X, Y, Z, d'une prise de sang, n'importe quoi. Elle m'envoie ça là-dedans.
Oui, mais ça, pis... c'est certains docteurs seulement qui
ont toutes une façon de fonctionner différemment.
Mais ça devrait tout être de même pour vrai, cette interface-là. J'ai le rendez-vous avec mon infirmière pour ma médication, mon TDAH. Je l'ai vu. Je fais, hey, ben non, tout mon dossier est là, là. C'est fantastique.
Je suis d'accord avec toi.
Puis l'interaction,
vraiment...
puis ma pharmacie, excuse-moi, mais tout est connecté. Là.
Tu fais partie de l'exception.
Ouais. Ben voyons donc.
Tu es vraiment privilégié.
Pour vrai, vous n'avez pas ça, vous
non.
autres.
Ben non. Ben non, t'es tout seul dans ton monde, Cloutier!
Non, non. non, mais arrête. Mais en tout cas, je salue Julie qui
mais
est...
Mais t'es vraiment chanceux. La pédiatre de ma fille, c'est
elle
ainsi.
Est comme ça, OK.
Exact. Mais mon médecin de famille à moi, non, pas pantoute.
Non, non.
Elle est super bonne, très efficace, mais on peut pas l'avoir.
Non, tu peux pas l'avoir, effectivement. T'en aurais eu besoin peut-être de ton médecin.
Ah oui, ce matin, je me suis réveillée. Tout allait vraiment merveilleusement bien. Je me suis même dit...
Ah, c'est arrivé
oh, wow.
ce matin, ça?
Oui, oui. Okay. Je me suis même dit, oh wow, j'ai vraiment passé une bonne nuit, génial. Et je suis allée pour me brosser les dents.
Tu débriefes souvent tes nuits, comme...
Pour vrai, oui, toujours. Quand je me réveille, je suis comme, très sympathique. Parfait, on commence la journée. Et j'étais en train de me brosser les dents. Et pendant que je me brossais les dents, je me suis dit, oh, je me suis mis à avoir vraiment chaud. Plein de sueur. Puis là, oh mon Dieu, je suis en train de perdre connaissance.
Ah ouais?
J'ai failli perdre connaissance dans ma salle de bain. Je pense que j'ai fait une chute de pression parce que j'en ai déjà fait beaucoup par le passé, puis c'était le même ressenti. Puis là, la solution est toujours simple. Tu te couches par terre, puis tu te lèves les jambes dans les airs.
Pour que le sang monte à la tête. Là.
Exactement. Fait que j'ai fait ça. Ça a très bien fonctionné. J'ai mis une petite compote de pommes. Parce qu'avoir
un petit
peu
par terre
de...
habillé, genre?
Non, parce que je me suis dit que j'avais été tellement chaud que dans ma grosse robe de chambre, fait que je me suis déshabillée. Je me suis couchée sur les dalles de mon plancher.
Ton chum ouvre la porte, fait ah! Elle est morte!
Elle est morte ou? Mon Dieu, là, j'ai.
Tout ça aurait pu être possible.
Elle fait comme allô, amour!
Je vais chercher mes genouillères!
J'étais pas en disposition pour ça, je vous dirais. J'ai pris une petite compote de pommes pour remonter mon taux de sucre, puis je suis partie.
On rit de ça, mais ça t'arrive souvent, une chute de pression comme ça? Visiblement,
C'est très hormonal. C'est-à-dire que c'est vraiment relié.
Ah,
quand j'étais plus jeune, c'était hormonal. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait. Mais là, mes règles ont commencé. Fait que je pense que c'est ça qui a fait en sorte que je me suis vraiment sentie mal. Mais c'est vraiment... C'est bizarre, cette sensation-là, de faire comme... Oh, ça y est. Oh, je perds connaissance.
Ouais,
oh, si je me descends pas par terre doucement, ça va descendre. Oh!
C'est parti. Ben, oui. En tout cas, on est content que tu sois là et bien, bien, puis que tout est sous contrôle. Inquiétez-vous pas.
T'as fait une sieste en te levant.
Ouais, exactement.
C'est réglé.
Mon sommeil n'était pas si réparateur.
C'est ça, finalement, ta nuit, c'est un peu de la marde. On va aller en circulation tout de suite après. C'est la zone à Marco. Bougez pas, tout le monde.
T'es comique? De retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Ce soir, c'est le début de la NFL. C'est ce qu'on appelle une soirée importante. Avec mon hygiène de vie, des premiers matchs de la NFL, il m'en reste quoi? 9, 10? Et hier, je voyais les infirmières en moyenne pression. Puis je me suis dit que ça serait le bon moment de leur expliquer pourquoi le début du football, ça, c'est important.
Ouais.
À la base, le football, ça rend les gens heureux. Quand on voit les gens entrer dans un stade, là, ça crie, ça chante, ça festoie. Par contre, quand ça rentre dans un hôpital, les palais, ça braille, ça saigne, ça souffre. C'est pas la bonne vibe. Le stade de football dans une communauté, ça fait rentrer de l'argent. C'est malade. Un hôpital... Qu'est-ce que ça apporte? Des dépenses!
C'est vrai.
On entend souvent les infirmières dire qu'elles font du 74 heures par semaine. OK. Mais savez-vous que les joueurs peuvent des fois aller en prolongation? Ça a l'air de rien, mais c'est 15 minutes de plus! Imaginez le pauvre joueur, il commence sa game à 1h, il s'attend à finir vers 4h, mais non! Ça va être 4h15! C'est du TSO, ça! Il pensait super maison, mais là, il est pogné à se rendre avec son avion privé dans le trafic du stade, retourné chez lui 2 heures plus tard, il arrive, il est genre 6h30, 7h15. C'est quoi la vie de famille? Pis c'est un cirque comme ça, 5 mois de temps! C'est interminable! Heureusement, dans ce mois-là, Ils ont une semaine de vacances. Okay. Je tiens aussi à dire que les infirmières sont scolarisées, mais jamais autant que les joueurs de la NFL. Oh oui, ça vient toutes des universités. Ça a des diplômes en soudure à l'étain, des diplômes en pliage de feuilles papier 8,5 par 11 cartonnées, toujours réussi avec mention. C'est des têtes, des machines de jugement, des gens intenses. C'est vrai qu'à l'hôpital, il arrive que des patients perdent les pédales, que ça devienne très, très, très intense. Oui. Mais il n'y a jamais un gars qui a un streptocoque qui a blitzé l'infirmière.
Non.
Ah non, faut dire, les gens de la NFL ont les valeurs à la bonne place. L'année passée, il y a un joueur qui est mort sur le terrain. Ils l'ont réanimé, ils en ont parlé pendant un an. À l'hôpital, ils en perdent 40 par jour. Pas un mot sur la game! Et je pense qu'il faut se l'avouer, les vrais jobs importants, tu te fais applaudir. Là, chez moi, là, les médecins, les infirmières, les professeurs, personne n'applaudit. Mais un joueur de football, un acrobate, un magicien, ça change le monde, ça! Au football, ils ont appris à faire un show. Les reprises au ralenti, oh wow! Avez-vous déjà vu une reprise au ralenti d'une échographie? On voit rien. À vitesse normale, on voit rien. Puis ça, d'ailleurs, là, j'ai hâte que les gens se rendent compte qu'ils nous niaisent avec leur échographie. Là. Ça encercle une tache noire en disant qu'un bras. Puis nous autres, on pleure. Oh mon Dieu, un bras. Ça a fucking pas l'air d'un bras. Au foot, le bras, on le voit. On le voit cassé au super ralenti. Le coude qui plie sur le mauvais sens. Le baccalauréat en pliage de papier, c'est un plus. Puis le soulage à l'étain risque d'être nécessaire. C'est tout ça, la NFL. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Alors, mesdames et les infirmières, oui, on est derrière vous, là. Mais, il n'y a pas de poule. Alors, je dis, lâchez pas. Mais go Lions!
Le podcast Debout les comiques.
Et ben, bienvenue à une nouvelle édition de Sans Génie, sans S-A-N-S. Ce matin, nos Sans Génie, ils sont habillés de jaune parce qu'ils sont thématiques. Yellow Molo est avec nous. On vous voit plus beaucoup, les gars. Avez-vous des projets?
Je vais devenir journaliste.
Super. Alors, vous affrontez celle qui porte une robe bleue ce matin et j'ai nommé France d'amour. Comment tu te sens, France? Vivante. Super. Et le tout sera sous la supervision de notre juge invité, M. Michel Louvain. Michel, selon toi, qui va gagner?
La femme en bleu, seule à sa table.
OK, c'est pas une table, c'est un lutrin. Catégorie corps humain. Première question. À quoi peut-on reconnaître une personne en état de choc? Yellow Molo.
Son regard est vide, il fixe beaucoup trop loin.
Bonne réponse. Prochaine question. À quoi sert le clitoris? France d'amour. Pour te combler, bonne réponse. Comment appelle-t-on l'œil en latin? Oh, j'ai entendu les deux en même temps. Michel Louvain qui a pesé en premier.
La femme en bleu seule à sa table.
D'accord, je rappelle que c'est un lutrin. France? France, tu m'entends?
J'entends ta voix.
OK, alors j'ai besoin d'une réponse. Tu vas y penser longtemps. Hein?
Jusqu'au matin.
Trop long. Droit de réplique. Hello, Molo. Comment on appelle l'œil en latin?
Aux yeux de
Tibus, c'est pas la bonne réponse. Mais l'essai, on parle plutôt de oculos. Est-ce que c'est surprenant pour vous?
Ouais!
Parfait. Vrai ou faux, il y a près de 7 millions de morts dans le monde à cause de la COVID.
Si c'était vrai, si c'était vrai, oh. Qu'est-ce qu'on en ferait? Oh, c'est si
peu,
c'était vrai,
un peu complexe.
Si c'était vrai.
Ouais, c'est un peu complétiste, France. Hein? J'imagine que ton idole, toi, c'est... Ah, ben ouais, c'est ça. Et Donald Trump, c'est...
Le fumier d'aujourd'hui.
On s'entend. Alors, on reste dans le thème. Qui était Gilbert Rozon?
Silence est du zéro!
Oui, mais non, trop flou. Droit de réplique à France.
Patron obscène.
Patron obscène, bonne réponse. Géographie. Que représente la couleur jaune sur le drapeau ukrainien? Oh, Michel, qui a pesé en premier?
Sylvie.
Il n'y a pas de Sylvie.
Linda.
Pas de Linda.
Lison.
Non plus.
La femme en bleu.
Ah, voilà.
Seule à sa table.
Mais c'est un lutrin. On parle de France d'amour, hein? Michel, on manque un petit manque de délicatesse quand même.
Et si j'allais lui parler?
Tu vas lui dire quoi, Michel?
J'imagine ton corps
bon, fais pas ça, on va pas l'avoir. France d'amour, le jaune sur le drapeau ukrainien symbolise...
Le blé des champs.
Bonne réponse. Wow. Qui est Cole Caulfield? Réponse acceptée. À quel moment de l'année on doit faire nos impôts?
Pendant qu'on est en vie.
Trop flou. Yellow Molo? Voyons, est-ce que je vous dérange? Bon, OK, ben on va y aller avec une dernière question dans ce cas. Alors, on joue ce matin pour un séjour à quel endroit, Michel?
C'est à Québec.
Wow! Question à choix de réponse. Richard Martineau est chroniqueur dans quel quotidien? A, Journal de Montréal. B, Journal Le Devoir. Ou C, Le Clin d'œil? Yellow Molo? Mauvaise réponse. France, droit de réplique A, B ou C? Bonne réponse! Michel, c'est une victoire de...
De la dame en bleu.
Merci beaucoup. À très bientôt pour un autre Sans Génie. En effet.
Le podcast Debout les comiques.
C'est 23.